Le journal, Séverine Boy.
Dernière séance pour le législatif de Saint-Imier. Au menu, le chauffage à distance, une prise de position au sujet du futur des finances communales et l'élection du ou de la présidente du conseil de ville pour l'année prochaine. Deux prévôtois ont traversé l'Atlantique en voilier. Ils ont parcouru 6000 km entre La Rochelle et la Martinique. Une aventure qui a duré 43 jours, dont 28 de navigation. Entretien dans ce journal. Les transports publics régionaux bénéficieront d'une enveloppe de 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Le national a accepté ce jeudi la proposition du Conseil des États d'augmenter de 160 millions le crédit d'engagement demandé par le Conseil fédéral. Le ciel devrait être de plus en plus lumineux. Les températures continuent d'être douces pour la saison, entre 5 et 8 degrés aujourd'hui dans la région. Les élus de Saint-Imier se donnent rendez-vous pour une dernière fois en 2025. Le conseil de ville tiendra son ultime séance de l'année ce soir. Il sera notamment question de chauffage à distance, mais aussi d'une prise de position au sujet du futur des finances de la commune. Anthony Montandon.
Tous les partis doivent prendre des engagements pour assurer le suivi des recommandations de l'audit financier. On rappelle que des experts ont rendu il y a quelques mois un rapport sur l'état des finances imériennes. Ils proposaient pas moins de 210 mesures, la plupart ayant été retenues par les autorités. Reste que Saint-Imier arrive en fin de législature puisque des élections auront lieu l'an prochain. C'est une des raisons qui pousse le Parti libéral radical à proposer une résolution ce soir, l'idée que toutes les formations s'engagent au-delà de ce scrutin à suivre et à mettre en œuvre ces propositions. Le PLR avait déjà tenté de soumettre cette résolution lors de la dernière séance, mais des élus d'autres partis avaient alors demandé des modifications et des ajouts. En d'autres termes, si accepté, ce document représentera un engagement symbolique des élus à respecter le plan pour assainir les finances communales. Mais ce point sera traité en fin de séance. Avant ça, il faudra valider quelques crédits et dire si le conseil de ville soutient l'idée de réaliser un chauffage à distance dans le centre de la localité. Il est question de permettre à une vingtaine de bâtiments de se raccorder à ce système. Montant de l'opération, plus de 4 millions de francs, une somme déjà inscrite au plan financier et qui sera soumise par la suite à la population.
Cet accident mortel sur la 5, un automobiliste a perdu la vie hier soir à Bruck, au niveau du carrefour de Bruck-Mauss, juste après le tunnel de Lengholz. Le récit de Diana Costa.
Peu après 20h20, la police cantonale bernoise a été alertée d'un grave accident sur la 5 en direction de Bruck. Selon les premiers éléments de l'enquête, la voiture circulait dans le tunnel de Lengholz lorsqu'elle a percuté, pour une raison encore indéterminée, un mur en béton à la sortie du tunnel. Le véhicule a alors pris feu et a entièrement brûlé. Le conducteur est décédé sur place. Son identité n'a pas encore été formellement établie, même si des indices concrets existent. L'intervention a mobilisé plusieurs services, les sapeurs-pompiers professionnels de Bienne, une équipe d'ambulance, des spécialistes de l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne, ainsi que du personnel de l'Office des ponts et chaussées. Le tunnel de Lengholz en direction de Bruck est resté fermé plusieurs heures et une déviation a été mise en place. Une enquête est maintenant en cours sous la direction du ministère public régional du Jura Bernois-Seeland pour déterminer les causes exactes de l'accident.
Le groupe Straumann a provoqué cet été une véritable secousse dans la région. En cause, l'annonce de la suppression de près de 200 emplois sur son site de Villeray, soit environ un quart des effectifs. L'entreprise spécialisée dans les implants dentaires a ouvert un site de production en Chine. Une décision stratégique qui ne menace pas pour autant ses activités dans le Jura bernois. Sébastien Roche est membre de la direction générale du groupe Straumann.
Alors clairement, le site de Villeray n'est pas laissé pour compte, n'a jamais été et ne sera pas laissé pour compte. C'est un site à la fois historique et puis qui reste au centre de notre réseau industriel. On a prévu des investissements qui sont déjà en cours et qu'on continue de l'ordre de 60 à 80 millions de francs dans les 5 prochaines années. On a aussi prévu de focaliser le site sur nos produits les plus modernes. Vous avez sans doute entendu parler de notre gamme de produits IXL. C'est nos derniers produits les plus modernes, les plus complet. Donc le site se focalise sur ces gammes de produits-là. Et puis on investit très clairement et fortement dans le développement des compétences sur le site. On a un centre de formation dans lequel on accueille déjà des apprentis. On veut augmenter le nombre d'apprentis qu'on accueille dans ce centre de formation. Ce centre de formation nous sert aussi à aider nos employés en interne à se développer sur différents postes au sein du site. Et puis enfin, on a un gros programme de digitalisation du site qui nécessite aussi qu'on développe les compétences digitales au niveau du site.
Sébastien Roche, membre de la direction générale du groupe Straumann, une interview que vous pouvez retrouver sur ajour.ch. Ils ont traversé l'Atlantique sur un voilier de location et parcouru 6000 km entre La Rochelle et la Martinique. Deux prévôtois, Christophe Nicoulin et Cédric Erard, accompagnés successivement par différents équipiers supplémentaires, viennent de rentrer au pays après 43 jours d'aventure, dont 28 de navigation. Un voyage qui aura réservé son lot de mésaventures et de frayeurs à nos deux baroudeurs, comme lors de cette nuit en pleine mer, par gros vent avec des creux de 2 mètres, lorsqu'un cordage se bloque dans l'hélice du moteur du bateau. De quoi se sentir tout petit face aux éléments, Cédric Erard.
Alors ouais, tout petit, c'est encore bien grand. Ouais, c'est vraiment que là, sur ce moment-là, entre autres, ben, c'est sûr que, personnellement, moi, je me disais, mais j'ai rien à faire là, quoi. Je regrettais clairement mon choix. Voilà, il n'y a pas le choix, quoi. J'ai beaucoup fait de comparaison avec la montagne, que je connais certainement un petit peu mieux que la mer. Et puis là, ben, je savais déjà avant que, ben, qu'en bateau, il n'y a pas le choix. Et on ne peut pas faire pause. Et puis, dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut gérer les choses sur le moment. Il faut essayer de beaucoup anticiper les choses, la montée du vent, les courants, ou bien les vagues. Il faut essayer d'anticiper pour avoir le moins de mauvaises surprises. Et là, en l'occurrence, voilà, on y a eu une erreur. Et puis après, il faut réagir, essayer de prendre les bonnes décisions. Mais c'est clair, sur des moments comme ça, on se dit oh, j'aurais mieux fait de ne pas m'engager sur une telle aventure et puis de rester tranquille dans mon canapé à la maison. Donc voilà, pourtant. Mais voilà, c'est deux, trois événements comme ça qui, maintenant, je le dis en rigolant, sur le moment, j'étais pas très bien. C'est sûr qu'il faut digérer ce genre de choses. Mais voilà, c'est. Ça fait partie de l'aventure.
Cédric Erard répondait à Régis Meria dans la matinale. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur notre site rgp.ch. Plus d'argent pour le transport régional de voyageurs. Le Parlement soutient la mobilité dans les régions périphériques. Le Conseil national a finalement rejoint la position du Conseil des États ce matin et débloqué 160 millions de francs supplémentaires. Le Conseil fédéral avait prévu d'augmenter cette enveloppe de 2% pour la période 2026-2028. Mais les élus estiment qu'il faut davantage. Les précisions de la conseillère nationale du Centre, Marie-France Rode-Pasquier.
Ça ne suffisait pas par rapport aux demandes qui avaient déjà été faites pour les années 26-28 par les compagnies de transport. Il y a des cadences qui vont être améliorées. Il y a les transports électriques aussi qui doivent maintenant être mis en place. Les commandes se font en ce moment. Donc il y a toute une série d'offres qui avaient été proposées et qui n'auraient pas pu être complètement remplies avec le budget que prévoyait le Conseil fédéral. Donc c'était important d'augmenter ce budget. Et il faut rappeler qu'il est modéré par rapport à ce que demandaient les compagnies. Il y avait un montant de plus de 300 millions qui était souhaité. Là, on a fait une partie du chemin avec environ un tiers.
Le crédit voté pour le transport régional voyageurs se monte donc à 3,5 milliards de francs pour les années 2026 à 2028. Les travaux d'agrandissement de la gare de Berne dureront 2 ans de plus que prévu. Ils coûteront aussi beaucoup plus cher. Des obstacles imprévus lors des travaux de construction expliquent ce retard. La mise en service est désormais fixée à 2031 et les coûts supplémentaires s'élèveront entre 200 et 250 millions de francs, ont annoncé aujourd'hui les CFF. Le canton qui offre le plus de liberté à ses concitoyens est celui d'Argovie. Le classement est établi par le laboratoire libéral d'idées Avenir Suisse. La version 2025 est publiée ce matin. Les cantons romands sont largués au-delà de la 10e place, notamment en raison de leurs contraintes économiques et fiscales. Le mieux classé est pourtant un habitué des fonds de classement comparatif, c'est le Jura 10e. Les autres cantons romands sont Neuchâtel 11e, Vaud 17e, Genève 18e, Fribourg 23e, Berne 25e et le Valais 26e. Les explications du directeur roman d'Avenir Suisse, Diego Taboada.
En tout cas, le Jura, cette année, il performe particulièrement bien. Donc, c'est effectivement le premier canton roman, mais c'est le 10e canton sur les 27 cantons, parce qu'on considère le Liechtenstein. Et oui, le Jura performe particulièrement bien en termes de liberté civile. Un exemple d'indicateur, c'est la présence d'une loi sur la transparence, par exemple, au niveau des institutions. Et puis, le Valais, certes, qui était en queue de peloton, a cédé la dernière place à Uri. Mais effectivement, en termes de liberté économique et puis de place de l'État aussi, et de liberté et de réglementation qui est imposée, mais ça ne lui donne que plus de possibilités pour progresser. Par la suite, et en tout cas, ça permet de pointer les éléments où les Valaisans peuvent progresser en termes de liberté économique.
L'indice de liberté d'Avenir Suisse combine 29 indicateurs. Ils sont répartis en deux catégories. L'un pour déterminer la liberté économique, où les Alémaniques sont champions. L'autre concerne la liberté civile, où les Romans y sont plus à l'aise. Diego Taboada.
On a deux sous-indices, on a les libertés économiques, par exemple le poids de l'État dans l'économie, la charge fiscale ou encore les horaires d'ouverture de magasins, et aussi les indices de liberté civile, ça peut être le rôle de la vidéosurveillance dans l'espace public ou le droit politique pour les étrangers ou encore la liberté de scolariser ses enfants à domicile ou bien dans différentes écoles. Donc avec ces sous-indices, finalement, on arrive à construire un indice pour avoir cette granularité au niveau des cantons.
Diego Taboada au micro de Serge Jubin. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, a assuré ce jeudi à Oslo, lors de sa première prise de parole en public depuis près d'un an, qu'elle ferait tout son possible pour rentrer au Venezuela où elle vit cachée. Considérée comme fugitive en sortant du pays, elle pourrait se faire arrêter à son retour. L'opposante vénézuélienne compte y poursuivre sa lutte pour y mettre fin à la tyrannie. Amnesty International accuse pour la première fois le Hamas et d'autres groupes palestiniens de crimes contre l'humanité ce matin. Ils évoquent notamment l'attaque du 7 octobre 2023 en Israël, mais aussi l'emprisonnement, la torture, la disparition forcée, le viol et d'autres formes de violences sexuelles commises par les organisations palestiniennes.
12h26 sur RJB, Séverine Boé, on s'en va tout de suite transpirer un peu.
RJB Sport.
Encore une mauvaise nouvelle pour l'équipe féminine de ski alpin, alors que la première descente de la saison a lieu demain à Saint-Moritz chez les dames. Michèle Guizine a lourdement chuté ce matin lors du deuxième entraînement. L'Obvaldienne a été transportée par hélicoptère à l'hôpital. Aucune nouvelle n'a pour l'heure été donnée. A noter que l'équipe de vitesse est déjà amputée de ses deux leaders, Lara Goudberami et Corinne Souter. Les gardiens du HC Bien ne sont pas convaincants. Harry Seteri et Louis Janet affichent des statistiques médiocres depuis l'entame de la saison. On en parle ce soir dans le dernier épisode 2025 de la Stammtisch. Notre émission consacrée à l'actualité du club sélandais reçoit Marco Streit, l'entraîneur des gardiens du HC Bien. Moins de 90% d'arrêts pour Harry Seteri, 83% pour Louis Janet. Les statistiques sont criantes, mais Marco Streit tempère.
Les nombres, ils ne sont pas encore satisfaits. Il y avait des hauts et des bas, un peu comme l'équipe, quoi. De l'autre côté, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de buts où on peut dire c'est la faute au gardien ou aussi un match entier où on peut dire le gardien, il n'était pas là. Ça, heureusement, on n'a pas eu, mais il manque peut-être, oui, quelques arrêts de clé en plus.
Une émission à retrouver dès 20h sur notre antenne et sur rgb.ch. De belles affiches européennes pour les clubs suisses. Young Boys reçoit Lille à 18h45 en Europa League de football. Objectif, revenir dans le top 24 pour continuer de rêver au 8e de finale. Même but pour le FC Bâle qui occupe pour l'instant une place de barragiste. Pour la conserver, il faudra réaliser un exploit contre les Anglais d'Aston Villa, 3e actuellement de la phase de Ligue à 21h à Bâle. À l'échelon inférieur, en conférence Ligue, Lausanne seront en Finlande pour affronter Kuopio à 21h. Les Vaudois pourraient s'assurer un printemps européen en cas de victoire ce soir. Merci d'avoir suivi ces informations. Excellente suite de journée à l'écoute d'RJB.
RJB Sport.